Bonsoir à toutes et à tous. On est particulièrement heureux ce soir d'accueillir Didier Fassin à la librairie Mola, aussi parce qu'on se retrouve en présentiel et que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu cette chance de pouvoir échanger autrement que sur les multiples vidéos que vous avez pu voir sur YouTube. Et on accueille donc ce soir cet auteur, Didier Fassin, que je vais présenter quand même s'il n'y a plus trop besoin, pour cet ouvrage, La société qui vient, au seuil, tout juste publié et qui compte bien 1300 pages. Alors Didier Fassin, vous avez travaillé sur de nombreux sujets, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes enseignant à l'université aux États-Unis à Princeton, et vous avez travaillé sur, depuis des dizaines d'années, sur les questions de santé, sur les questions d'économie morale, sur les formes de violence, et je pense que tout ça a d'une certaine manière infusé pour coordonner cet ouvrage, notamment autour d'une initiative d'excellence que vous avez menée, que je traduis de l'anglais, qui s'appelle Crise, une enquête globale à l'âge contemporain, et dont ce livre porte les traces, puisque dans son introduction, il pose la question de la manière dont nous sommes traversés actuellement par des crises multiples. Alors vous débutez en disant que finalement ce livre a peut-être été conceptualisé comme réponse, ou en tout cas comme interrogation par rapport à la crise des Gilets jaunes, 2018-2019, et puis qu'il se termine finalement au sein d'une crise là, sanitaire qu'on vit encore aujourd'hui de manière assez forte. Donc cette question-là, vous le dites bien, il n'est pas question de trouver une source monocausale à une crise qui serait la crise organique de l'ensemble de notre système, mais malgré tout, vous avez essayé, dans cet ouvrage collectif, de répondre à une question des situations critiques. Et le titre le dit bien, La société qui vient. Ce livre pose en même temps un constat sur notre société, en France et ailleurs, et puis essaye d'apporter des éléments pour penser le présent, le passé aussi, et puis pourquoi pas, d'une certaine manière, les choses qui vont venir, ces situations critiques. Alors ma première question, j'arrête de parler, est toute simple. Il y a dans ce volume 67 contributrices et contributeurs, des gens connus, moins connus, Dominique Méda, Yves Saint-Omer, Eva Illouz, Michael Feussel, des gens que vous connaissez, que vous avez peut-être lus d'ailleurs. Comment vous avez pensé ça? Il y a des sociologues, des économistes. Comment vous avez coordonné? Quelle a été la vie de ce collectif intellectuel?
Alors, tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être à la librairie Mola pour discuter de ce projet collectif qui a été mené, je dirais, tambour battant, puisque entre le moment où j'ai finalisé à peu près, parce qu'il y a eu quelques petites modifications ensuite, mais où j'ai finalisé la structure et le plan de cet ouvrage, et le moment où le livre est sorti, il y a moins d'un an et demi, ce qui est, compte tenu du nombre d'auteurs et d'autrices, ce qui est exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, j'emporte un tout petit peu la responsabilité, mais bien sûr, ce sont surtout tous ceux qui ont et toutes celles qui ont participé à ce livre qui ont joué le jeu, et qui ont joué le jeu notamment parce que nous étions dit que tant qu'à faire d'avoir un livre qui pose des grandes questions de notre société, autant le faire dans un moment où le débat d'idées a un sens, c'est-à-dire alors qu'on se prépare à une campagne présidentielle et une campagne législative, bien qu'il ne s'agisse aucunement, évidemment, de prendre parti dans une direction ou dans une autre. Ce que j'avais demandé aux auteurs, à chacun et chacune d'entre eux, c'était premièrement sur des thèmes qu'ils connaissaient très bien. J'ai pris vraiment des spécialistes, comme vous le disiez, certains sont des gens de grand renom et souvent un peu plus âgés, évidemment. Et puis j'ai pensé aussi que c'était important d'amener dans un livre comme ça des jeunes chercheurs et chercheuses. Et ce que j'aurais demandé donc dans un premier temps, c'est d'écrire de façon à ce que le livre soit accessible à un public large. Il ne s'agissait pas de faire des textes académiques, ça ils en font tout le temps, nous en faisons tout le temps, mais c'était de faire sur des thèmes que chacun et chacune d'entre eux connaissait bien, de faire quelque chose qui soit très lisible. La deuxième chose, mais qui allait de soi compte tenu des auteurs et des autrices que j'avais choisis, c'est d'avoir une réflexion critique sur chacun de ces domaines, qu'il s'agisse de mondialisation, des campagnes, des inégalités affectant les jeunes, de questions de migration, des biens communs, etc. Je ne vais pas vous citer les 64 ou 65 chapitres, mais il s'agissait à chaque fois d'apporter une réflexion critique, c'est-à-dire une réflexion qui s'éloigne un peu du sens commun, de ce dont nous entendons parler en permanence, pour d'une part apporter des faits, et d'autre part une réflexion sur ces faits qui pouvaient même aller jusqu'à une... un nettoyage en quelque sorte du langage pour s'interroger sur le sens même des mots qui sont utilisés de façon banale et parfois de façon polémique dans le discours public. Donc c'était vraiment ces deux choses. Tous les auteurs avaient une grande liberté, et les autrices avaient une grande liberté sur leur sujet. Je savais qu'ils le connaissaient bien. Et donc, simplement, vous demandiez comment ça s'était passé. Eh bien, une fois que j'avais une première version, j'essayais de faire une discussion critique avec chacun et chacune d'entre eux pour leur dire, voilà, moi je suis un lecteur, je suis bien moins spécialiste que vous dans le domaine que vous traitez, mais voilà, il y a des choses qui, moi, ne me conviennent pas ou m'interrogent, et je vous fais mes remarques, je vous fais mes critiques, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé à un rythme très... très soutenu, et puis ensuite il y a eu un énorme travail de préparation, de relecture par les éditions sur les versions finales, et voilà, et nous en sommes arrivés à ce livre, La société qui vient.
Alors pour les merci pour cette réponse. Je pense que vous dites aussi qu'il y a dû avoir beaucoup de Zoom, beaucoup de réunions distancielles, parce que les livres aujourd'hui, c'est compliqué de se voir aussi de ce point de vue-là. Les 64 contributions, il a fallu les ordonner, leur donner un sens. Vous avez choisi des grandes catégories, enjeux, politiques, etc., etc. Donc que les lecteurs et les lectrices découvriront. Hein. Vous vous doutez bien qu'avec 1300 pages, on ne va pas tout découvrir là ce soir. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la dynamique de lecture, de chaque article, qu'on peut un peu picorer en fonction des thématiques qu'on a envie de découvrir, c'est qu'il y a cette structure très forte dans chaque article de le constat, parfois un retour vers le passé, je ne dis pas ça parce que je suis historien, le présent, les faits, comme vous le dites, et puis un excursus à la fin, on sent la tentation de dire ce qui va advenir. Et je pense peut-être, alors on aura, vous le savez, chez Mola, des questions tout à l'heure, un quart d'heure de questions après 19h, est-ce que vous-même, il n'y a pas eu cette tentation de passer du descriptif au prescriptif ?
Alors, du descriptif au prescriptif, certainement pas. Mais de l'analytique au critique, certainement oui. C'est-à-dire que nous pensons que sur des sujets aussi importants que... le premier chapitre s'appelle Terre, et c'est sur l'avenir de c'est sur le présent de notre planète et comment il engage son avenir. Le second s'appelle Mondialisation, et il pose la question d'une post-mondialisation, comme le dit l'auteur, c'est-à-dire on s'éloigne de ce qu'a été un modèle de la deuxième moitié du XXe siècle. Migration, on voit bien à quel point c'est un enjeu pour la société contemporaine. Il y a un chapitre qui vient, je crois, un peu juste après, qui est sur le terrorisme. Et donc, il s'agissait à chaque fois, évidemment, de faire ce constat et parfois de montrer qu'il y avait des opinions divergentes autour de ces sujets, des façons différentes du côté des chercheurs de les interpréter. Mais qu'en même temps, il y avait des enjeux qui étaient majeurs et qu'il s'agissait sur lesquels les auteurs devaient se positionner. Et je dirais que l'introduction que j'ai écrite, qui s'intitule Un moment critique, et qui précisément est une tentative de sortir du langage de la crise, c'est-à-dire que la multiplication des faits, des phénomènes qu'on interprète comme étant des crises. J'avais fait un petit exercice dans le New York Times au début de, un petit peu avant le début de ce travail, qui consistait sur 24 heures à regarder dans les archives du jour, c'était un jour au hasard, le jour où j'ai commencé ce travail, sur 24 heures, il y avait 36 occurrences du mot crise dans le titre ou dans le résumé des articles. 36. Sur des sujets extraordinairement divers qui concernaient le monde entier, hein, et toutes sortes de domaines, depuis l'économique jusqu'au politique, en passant par le diplomatique, le sport et même les séries télévision. Donc par rapport à cette banalisation du langage de la crise, il me semblait qu'il y avait un double problème. Le premier, qui était que comment la crise, qui est censée être une rupture dans l'état normal des choses, par définition, comment pouvait-elle devenir normalisée? Comment pouvait-il y avoir une normalisation de la crise au point que tout était crise, tout phénomène était décrit comme tel? Et deuxièmement, et peut-être de façon plus importante, lorsqu'on pense les faits en termes de crise, on a tendance à réagir de façon dans une temporalité qui est celle de l'urgence. Et on voit bien que c'est ce qui s'est passé dans le cas de la crise sanitaire, ce qu'on appelle la crise sanitaire, donc la pandémie de Covid. On voit bien que c'est ça qui s'est joué, à savoir l'entrée même dans un état d'urgence, avec tout un ensemble de conséquences, et en même temps un évitement des questions de fond, des problèmes structurels qui se posent à nos sociétés. Et je dirais qu'on le voit au quotidien par les annonces de chiffres, les modifications des mesures, etc., qui envahissent complètement l'espace politique et médiatique, au point qu'il devient très difficile d'aborder les questions de fond. C'est ce que nous avons essayé de faire, et c'est pour ça que j'ai parlé plutôt de moment critique. Comme vous le savez, crise et critique ont la même origine étymologique en grec, et du coup de faire une sorte de critique de la crise, mais bien entendu sans nier l'existence de tous ces problèmes que nous rencontrons.
Alors, vous vous doutez bien que maintenant que Didier Fassin a un peu résumé la manière dont le livre a été produit, nous n'allons pas tous ensemble lister l'ensemble des 64 contributions. Et donc, j'ai très arbitrairement, en tant que lecteur, choisi un certain nombre de thématiques qui me semblaient pouvoir résumer, à mon avis, une tension ou un équilibre qui est dans le livre. En même temps, le courage de traiter des sujets très polémiques, le terrorisme, on y reviendra un peu plus tard, la question des exilés, des réfugiés, des sujets qui sont chauds aujourd'hui, la question décoloniale, etc. Et puis en même temps, l'envie de traiter des sujets peut-être plus originaux, comme vous le dites, un peu de décentrer le regard. Je donne un exemple sur lequel on passe un peu vite, la question de la famille, qui est un des chapitres principaux, question qu'on pose même plus, tellement on est habitué à la voir autour de nous et à ne pas en voir les transformations de long terme. Donc à titre personnel, c'est un chapitre que j'ai beaucoup apprécié, qui montre les 100 ans, 200 ans de tension autour de la crise de la famille nucléaire, la question de l'émancipation de l'individu. Donc vous voyez, on peut rentrer vraiment dans le détail de ce que sont les faits de la pensée sur la famille depuis 100 ans, puis ce qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais commencer ce petit voyage qu'on va faire ensemble par un article qui m'a beaucoup intéressé et qui concorde aussi avec tout ce que votre statut de médecin initial, la question du care. Alors CARE, en anglais, vous savez, take care, ça veut dire faire attention aux autres. Et c'est une thématique actuelle dont vous avez peut-être entendu parler, assez à la mode, qu'on exprime parfois sous la notion de soin, d'attention à l'autre. Et l'article, qui peut paraître un peu ardu dans ce que je suis en train de vous dire, un peu technique, qu'est-ce que c'est que ça, le care, c'est tout simplement cette idée, il est écrit par Pascal Molinier, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui est de dire que dans le grand récit qu'on fait des origines de la préhistoire, de la violence primordiale, en fait, les humains, depuis le départ, ont d'abord un care primordial. Ils ont d'abord une attention à l'autre, pour lutter contre la vulnérabilité. Donc déjà, rien qu'avancer ça, c'est intéressant. Et puis l'article, et c'est des petits articles, d'une quinzaine, vingtaine de pages, donc vous pouvez encore une fois le lire assez rapidement, l'article avance sur ce postulat de départ, de dire que l'espèce humaine est avant tout une espèce finalement non pas de la violence et de l'agression envers l'autre, mais une espèce de l'attention à l'autre, et pose la question de ce que serait une révolution du care actuelle, qui est évidemment ancrée, parce qu'il y a une circulation entre les articles, la question du féminisme, dans un monde patriarcal, où on valorise l'agression, on valorise la domination, on valorise jamais l'attention aux autres, d'où j'arrive à ma question quand même, ça en arrive à cette idée un peu de où on en est aujourd'hui, l'idée révolutionnaire d'une caring democracy, d'une démocratie du care, comment on peut penser tout ça, comment le care, qu'est-ce que le care est en train de faire à notre société contemporaine et à celle qui vient.
Alors qu'est-ce que le care est en train de faire ou qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire précisément je crois pour la partie, disons, évolutionniste, hein, celle qui remonte à des ancêtres très lointains, je crois que ça fait partie d'un mouvement dans les études préhistoriques qui est très intéressant, puisque effectivement, il y a eu pendant très longtemps cet imaginaire de nos ancêtres sous l'angle de la force, de la violence, comme vous l'indiquiez, des guerres entre les groupes, des dangers de l'environnement, et ça a existé bien entendu, mais un grand nombre de travaux aujourd'hui avance l'idée que si l'homme, au sens générique, donc l'homme et la femme, ont pu devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, c'est parce que des relations, les relations d'empathie, les relations de solidarité étaient aussi importantes, voire plus importantes que celles de compétition, de conflit et de violence. Et donc, au fond, ce que Pascal Molinier nous aide à redécouvrir, c'est cette longue histoire de ce qui a été, de ce qu'on appelle aujourd'hui le care pour les autres, et que c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire tenir une société. Alors, l'introduction du care dans les travaux de sociologie a été et de philosophie a été extrêmement importante, puisque face à une conception philosophique et sociologique qui mettait en avant des grands principes de justice qui étaient écrits toujours par des hommes et qui mettait en avant, disons, la présence masculine, eh bien, un certain nombre de femmes, aujourd'hui aussi des hommes, soulignent l'importance du care, le care pouvant être s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents âgés, dans des associations, prendre soin des personnes les plus fragiles, qu'elles soient handicapées ou qu'elles soient exilées. Et donc ça, c'est quelque chose qui était totalement invisible parce que c'était souvent dans l'ordre du privé, mais invisible aussi parce que ça n'était pas compté par les économistes. Dans le PIB, ça ne rentre pas. Et donc ça a été véritablement une révolution, l'introduction du care comme un élément important à la fois de la vie sociale, mais aussi de la vie économique. Évidemment, dans une période comme celle que nous traversons, où l'autoritarisme est très souvent la dominante de la vie politique, où la répression des écarts, on le voit autour de la pandémie de Covid, la répression des écarts se fait parfois brutale, rappeler que non seulement les individus doivent manifester du care à l'égard de leurs voisins, de leurs concitoyens, mais aussi les gouvernants doivent en faire autant, eh bien, c'est quelque chose qui, effectivement, relève d'une sorte de révolution de la pensée, d'un autre paradigme que celui qui repose sur cette souvent brutalité des États.
Alors là, on voit tout l'intérêt hein, dans ces petits articles à vraiment retracer les éléments que les disciplines anthropologie, économie, écologie, sociologie permettent de voir, de se baser sur les faits, puis de voir où on en est aujourd'hui. Il y a un deuxième mot qui m'a intéressé, en espérant qu'il vous intéresse aussi, c'était comme ça que je les ai choisis, c'était le mot démocratie, parce qu'évidemment, il est complètement galvaudé, on a l'impression d'avoir tous lu au moins quelque chose, si c'est Bernard Manin ou autre chose, sur l'idée qu'on n'est pas vraiment en démocratie, qu'on est dans des gouvernements représentatifs. Et Michael Fussell, qui était d'ailleurs venu ici présenter son livre Récidive il y a quelques temps, ça m'a intéressé. Il nous dit, bon, écoutez, voilà, en 89, le communisme s'écroule. On a peut-être tous ou pas vécu cette période où on a cette petite utopie qui dure pas longtemps, que ça y est, la démocratie libérale va conquérir le monde en entier, la fin de l'histoire. Et puis, Michael Fussell nous écrit, nous dit, en fait, cet espoir-là, il est mort. Et aujourd'hui, on est dans un doute démocratique profond face au populisme, face à la torsion des États de droit, etc., etc. Et pour autant, il prend cette idée à revers en disant que, en regardant le fait, assez simple, que la plupart des gens qui contestent aujourd'hui les pouvoirs, les systèmes, quand ils veulent les appeler comme ça, ou en l'occurrence la démocratie, le font souvent, au nom de la démocratie. Et donc ça m'amène à cette question, finalement, est-ce que tout va bien dans la démocratie? En tout cas, c'est ce que Michael Fussell a l'air de dire, je le dis d'une manière un peu publicitaire, mais est-ce que ça va pas si mal? Est-ce que, fondamentalement, l'idéal démocratique est ancré, y compris dans la critique?
Alors, l'épigraphe du livre, c'est-à-dire de mon introduction, c'est « Jusqu'ici, tout va bien », qui est, comme vous le savez, une citation, à la fois une plaisanterie et en même temps une citation du livre, du film « La haine », qui est répétée à plusieurs reprises. Et le « Jusqu'ici, tout va bien », c'est cet homme qui tombe d'un très haut building, et à chaque étage, répète « Jusqu'ici, tout va bien ». Donc, à la question que vous posez, est-ce que tout va bien ? Voilà, on peut répondre avec humour de cette façon, mais de manière plus sérieuse. Je crois que, d'abord, et vous citez à juste titre Michael Fussell, qui a écrit le chapitre « Démocratie », mais au fond, on pourrait presque lire toute la partie politique autour de la question de la démocratie. C'est-à-dire que, par exemple, dans la démocratie aujourd'hui, il y a cette tension entre la représentation et la participation. C'est classique. Hein. La représentation, c'est on élit des personnes qui vont nous représenter. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette représentation, elle est de plus en plus contestée, que, par exemple, on a entre 20 et 30% d'ouvriers en France, et qu'il y a zéro ouvrier à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, en termes de se représenter dans l'Assemblée nationale, c'est quand même un problème. Et du coup, et donc c'est le chapitre d'Yves Saint-Omer, et du coup, y a un chapitre, en quelque sorte, en miroir, qui est la participation, c'est-à-dire qu'on n'est plus représenté, mais on agit soi-même, on participe. Alors, il y a toute une série de participations, depuis des comités locaux dans des villes, jusqu'à des participations de jeunes à des conseils municipaux, et puis cette initiative qui a eu autour de l'environnement, où une centaine de personnes ont été tirées au sort pour faire des propositions au président de la République et au gouvernement. C'est le chapitre de Marie-Hélène Baquet. Donc il y a cette tension qui est véritablement au cœur de la démocratie. Est-ce qu'on fait confiance à la représentation ou est-ce qu'on doit participer soi-même? Bien sûr, il y a des deux. Mais il y a également un autre duet, en quelque sorte, qui est dans les chapitres, un chapitre mobilisation, où on voit que sur un grand nombre de sujets, des groupes sociaux se mobilisent. Alors, bien sûr, on peut penser aux Gilets jaunes, mais on peut penser à des ouvriers dans des usines qui vont fermer. On peut multiplier les exemples de mobilisation et en même temps de démobilisation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux extrêmement bas de participation aux élections. Donc on a là, cette tension aussi, entre de même qu'entre représentation et participation, et entre mobilisation et démobilisation. Et pour en venir à votre question, plus précisément, le texte de Michael Fossel est vraiment passionnant, je crois, parce que justement, il part de cette ambiguïté que nous avons vis-à-vis de la démocratie, puisque nous la critiquons, et en même temps, lorsqu'il s'agit de réformer, c'est dans le sens de plus de démocratie. Et il y a là quelque chose, je crois, qui est vraiment intéressant et qui nous amène à réfléchir sur le fait que lorsque nous critiquons la démocratie, nous ne critiquons pas la démocratie en tant que principe, en tant que ce qu'elle devrait être, mais nous critiquons la manière dont on dédémocratise la démocratie, dont, par exemple, dans un état d'urgence, l'exécutif s'empare du pouvoir en marginalisant le législatif, dans la manière dont les acteurs policiers, les forces de l'ordre, se voient donner plus de prérogatives aux dépens du judiciaire. Donc, toute une série d'éléments qui, dans une période comme celle que nous connaissons, signe des, sans parler de tout ce qui touche aux libertés qui sont contraintes, voire limitées, tous ces éléments nous montrent que ça n'est pas que nous n'aimons pas la démocratie, que nous ne la voulons pas, mais nous la voulons autrement, nous la voulons telle qu'elle devrait être. Et je trouve que son chapitre, justement, va bien plus loin que ce qui pourrait être une critique superficielle de la démocratie.
J'ai eu ma réponse. De ce point de vue-là, c'est vrai que là, vous le suggérez en disant qu'il y a finalement une très grande cohérence dans tous ces chapitres politiques. Moi, à titre personnel, j'ai ce qui est très difficile sur ce genre d'ouvrage collectif où on fait travailler des gens différents dans des temporalités différentes, il y a une grande cohérence quand même sur les questions de genre aussi, la place des femmes, la question du patriarcat, et ça infuse un peu dans tous les textes. Donc c'est vrai qu'on peut en faire une lecture article par article, mais on peut aussi, même si c'est 1300 pages, espérons qu'un jour on pourra aller à la plage pour le lire d'un seul tenant, mais aussi on peut faire cette lecture d'un seul tenant. Autre article, mais qui est dans la filiation, celui de Bernard Lahire, sociologue, qui a récemment écrit une sociologie des rêves, mais qui là un thème traditionnel de la sociologie, qui est celui de la reproduction des inégalités. Le chapitre s'intitule « Reproduction ». Et qui livre, alors d'abord, une espèce de c'est pas primordial, c'est pas premier dans l'article, mais il livre une espèce de grande histoire de la manière dont Homo Faber, l'homme qui fabrique, vit avec ses objets, et vit aussi avec l'accumulation de ces objets. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a une historicisation de la domination. On accumule, Marx, etc., etc. Mais il livre, on en parlait à l'instant aussi, une sorte d'angle mort de la sociologie qui, dans la reproduction des inégalités, on est habitué à la lire dans le cadre scolaire, dans le cadre de l'héritage, dans le cadre familial. Mais lui, il livre quelque chose de « tout va pas si bien, finalement », peut-être un peu plus pessimiste, en montrant que cette reproduction des inégalités, elle est liée dès l'enfance et que les sociologues voient peu l'enfance. Et là, on voit, alors, en tant qu'anthropologue, comment on réinsère tout ça, c'est-à-dire comment on peut reparler, avec Bourdieu qui nous regarde pas si loin, comment on peut parler de cette reproduction des inégalités qu'on a vue fonctionner à plein au moment du Covid, inégalité homme-femme dans la répartition des tâches, inégalité sociale, inégalité face aux dangers. Comment on peut reparler de tout ça pour mieux voir le futur ?
Vous avez dit qu'on pouvait le lire d'un seul tenant. Je ne vous le conseille pas. 1350 pages seraient un peu indigestes d'un seul coup. Mais plus sérieusement, je crois que, et je le dis comme moi-même lecteur, je crois qu'il ne faut surtout pas essayer parcourir les chapitres l'un après l'autre. Il faut, si jamais vous êtes amené à lire cet ouvrage, à lire quelque chose de cet ouvrage, il faut vraiment aller dans les chapitres qui vous intéressent. Vous avez à la fin une table des matières qui est très détaillée et qui vous permet de vous dire, bah tiens, j'aimerais bien lire tel chapitre sur un sujet que je connais pas ou sur un sujet que je connais bien. Et vous parliez, je crois, tout à l'heure de picorer. Je crois que c'est vraiment l'idée qu'il faut garder. Alors sur la reproduction des inégalités, d'abord, je voudrais dire que pour moi, la question des inégalités est vraiment une question centrale de nos sociétés. C'est une question centrale, c'est une question dont on parle relativement peu. On en aborde certains aspects, notamment autour de la richesse. On a appris que c'est il y a deux jours d'un rapport Oxfam que la richesse des plus riches avait cru de manière extraordinaire pendant la première année de la pandémie, plus que pendant les 10 années précédentes. Et on sait par ailleurs que les segments les plus pauvres sont aussi ceux pour lesquels les difficultés ont été les plus grandes et se sont renforcées. Donc cette question des inégalités, j'en donne juste un autre élément parce que on en parle si peu et c'est pour moi tellement brutal que le fait que ça a été produit dans des analyses statistiques de l'INSEE il y a 4 ou 5 ans, les 5% les plus riches en France, on parle pas du 0,01%, les 5% les plus riches ont 13 années d'espérance de vie à la naissance de plus que les 5% les plus pauvres. Et encore une fois, 5% les plus pauvres, c'est pas les gens qui sont dans la rue, hein, qui sont plutôt de l'ordre de 0,1. Donc quand on a des écarts qui sont aussi importants, je crois que on ne peut pas ne pas mettre, pour cette société qui vient, les inégalités au cœur du livre. Donc c'est ce que j'ai fait en l'abordant sous différents aspects, la santé, l'école, pour différents groupes, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, etc. Et puis donc, en ouverture de cette partie, il y a ce chapitre de Bernard Lahire sur la reproduction. Et il y a beaucoup d'aspects dans son chapitre, et vous en avez évoqué à la fois la dimension historique et la dimension qui concerne la genèse de cette reproduction au plus proche de la vie de la famille et de la vie des individus. C'est effectivement une chose qui est encore relativement mal connue, quoi qu'elle soit étudiée depuis 15-20 ans, peut-être même un peu plus, par les épidémiologistes en particulier, et les sociologues. C'est que énormément de choses se jouent très très tôt dans la vie. Quand je dis très très tôt, ça se joue déjà pendant la grossesse, c'est dire, mais ça se joue surtout pendant les toutes premières années, c'est-à-dire avant l'âge scolaire. À l'âge scolaire, c'est déjà tard. C'est déjà tard pour corriger ces inégalités. Bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles un pays comme la France met les enfants à l'école très jeune. Enfin, en tout cas, dans des lieux, dans des collectivités où il y aura des apprentissages ensemble, à la différence d'autres pays qui sont beaucoup moins avancés sur ce plan, comme les États-Unis. Et les États-Unis ont des écarts, des inégalités qui sont considérables, bien plus grandes encore que celles de la France. Donc, cette insistance et finalement le fait que pratiquement l'angle essentiel d'abord de la reproduction des inégalités que choisit Bernard Lahire, c'est cette petite enfance, c'est même pas l'enfance, c'est la petite enfance. Je crois que c'est un rappel de cette de ce moment où tant de choses se jouent et qui ont à voir évidemment avec la capacité des parents à être présents, hein, par exemple, à la différence des familles où il n'y a qu'un parent, à la différence des familles où les parents ont des horaires totalement décalés qui permettent pas d'être avec leurs enfants, etc. Donc cette réflexion autour de, si on parle d'une société qui vient, c'est vraiment la petite enfance, c'est la société qui vient. Et donc je crois que c'est un chapitre effectivement qui illumine l'ensemble de cette question.
Oui, et qui montre bien l'espèce de double jeu du livre sur un niveau, on va dire, de réflexion qui peut être centré sur les sciences sociales. La sociologie a peut-être pas assez vu la petite enfance, mais directement aussi les conséquences concrètes que ça a dans le diagnostic. Donc ça c'est assez intéressant. Là, on a évoqué un certain nombre de sujets, vous voyez, des notions extrêmement larges, hein, reproduction, démocratie. Il y a un certain nombre d'articles qui sont plus précis, peut-être aussi plus polémiques, et on attend d'une certaine manière ou pas, mais le livre là-dessus, un des chapitres que j'ai trouvé peut-être là aussi, vous avez parlé au tout début de la question de la définition, le sens commun, et donc de ce qu'on appelle, parce qu'on a accepté ce terme, la crise des migrants. Et vous avez un très beau chapitre que vous avez coécrit, Didier Fassin, avec Anne-Claire Desfossés, qui s'intitule « Exilés », où vous retravaillez les catégories de réfugiés, les catégories d'immigrés, et cette catégorie d'exilés que vous définissez, je cite, « personne que certaines circonstances sont contraintes à quitter son pays ». Extrêmement flou, et ce n'est pas une critique, parce que justement, ça remet de l'humanité derrière tout ça. Et donc, ce chapitre montre comment aujourd'hui, en essayant de ne plus utiliser ce terme de crise des migrants, comment cette question qui est gérée, comme vous l'avez dit, dans l'état d'urgence permanent normalisé, est en fait une question d'avenir. Comme vous y êtes investi, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de tout ça? À quoi on fait face? Vous parlez des frontières. Quel est ce problème aujourd'hui? Comment peut-être le nommer d'une manière qui ne soit pas déjà un problème?
Alors, vous avez raison de dire que nous n'avons... jamais hésité à traiter des sujets qui pouvaient être polémiques. On ne s'est pas dit tel sujet risque de fâcher ou risque, au contraire, on a essayé de traiter l'ensemble des sujets. Certains sont plus pacifiés que d'autres, encore que même les plus pacifiés le deviennent peu. Si on dit la famille, par exemple, ça paraît pacifié, en fait, ça ne l'est pas du tout. Si on dit les campagnes et les banlieues, les banlieues pas trop, mais les campagnes, on pense que oui, et on se rend compte que non, qu'il y a énormément de transformations très dures qui se font. Et donc, en tout cas, nous avons vraiment essayé de ne reculer devant aucun sujet qui pourrait paraître difficile, en essayant à chaque fois de nous en tenir à une analyse la plus rigoureuse possible et en même temps d'introduire une réflexion critique. Alors cette réflexion critique, s'agissant des exilés, évidemment, elle est devenue nécessaire au moins depuis 2015, bien qu'évidemment cette question soit bien antérieure dans les débats publics. Mais disons, depuis 2015, on s'est trouvé poser ce qu'on a appelé, effectivement, comme vous le rappelez, alors, la crise des migrants, ça c'est le discours officiel. Quand vous allez du côté des associations, notamment celles de droits de l'homme, on vous dit c'est une crise des réfugiés, voire une crise de l'asile. Autrement dit, ça n'est pas la crise n'est pas liée aux personnes qui viennent. La crise est liée à la capacité d'apporter une protection aux personnes qui viennent. Et donc, sans minimiser la réalité, évidemment, quand il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui entrent sur le territoire en 2015, 2015-2016, sur le territoire européen, il est évident qu'il y a là quelque chose sur quoi les sociétés européennes sont amenées à réfléchir et à réagir. Mais quand même, 1 à 2 millions pour une population de 500 millions, c'est extrêmement limité. Et le démographe et sociologue du Collège de France, François Héran, qui a écrit le chapitre « Migration », a fait le calcul très, très simple, que sur les 5 années depuis 2015, eh bien, l'augmentation de la population européenne liée aux migrations est de 1,1%. Vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement absorbable, et non seulement absorbable, mais probablement désirable au regard du vieillissement des populations, au regard de la contribution de ces personnes à l'économie des pays, qui est quelque chose d'avéré, de démontré dans de très nombreuses études en Europe et en Amérique du Nord notamment. Alors, cette question des mots, on voit déjà que dire migrant ou dire réfugié, ça n'est pas la même chose. Et nous, plutôt que d'entrer dans cette discussion, est-ce que ce sont vraiment des réfugiés ou est-ce que ce sont plutôt des migrants, qui au fond est une discussion qui, pour avoir travaillé depuis de nombreuses années en France, mais aussi en Afrique du Sud, sur ces questions, en Afrique du Sud où la population qui vient du Zimbabwe est bien plus importante que celle que nous avons connue dans toute l'Europe. Ce dont on se rend compte, c'est que très souvent, les causes de départ sont mêlées, donc des causes qui sont à la fois politiques, de persécution, de violence, mais aussi des causes économiques, de famine, de paupérisation, etc. Et quoi qu'il en soit, nous préférons, avec du reste beaucoup d'acteurs de terrain, parler d'exilés, qui est un terme, je crois, qui a une certaine force, qui restitue une humanité aux personnes et qui rappelle que, quelle que soit la cause, ce sont des personnes qui ont été contraintes de partir. Un policier de la police aux frontières nous disait que 99% des gens qui quittent leur pays, c'est pour à la recherche de l'aventure. Non, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ça. C'est un mythe que les gens partent parce qu'ils sont contraints. Alors, ils sont contraints par des raisons différentes, hein, mais ils partent parce qu'ils sont contraints. Et du coup, la question devient, et c'est une question sur laquelle je travaille personnellement en ce moment avec Anne-Claire de Fossé, à la frontière franco-italienne dans les Alpes, nous voyons que ces personnes qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui ont pris des risques considérables, ceux qui viennent aujourd'hui en majorité d'Afghanistan, que ce soit des individus ou des familles, ce sont des gens qui sont partis non pas à la chute de Kaboul, encore qu'il y en a, mais qui sont partis 3-5 ans avant leur arrivée sur le territoire français, qui ont donc qui ont été dans des camps aussi horribles que celui de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce, qui ont été battus, dépouillés, toutes leur téléphone brisés et rejetés de l'autre côté par les polices et les milices croates vers la Bosnie, à maintes reprises. Donc ces gens qui ont cette expérience, évidemment, ils vont venir en Europe de l'Ouest. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas la France qu'ils recherchent, ce sont d'autres pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, s'ils y arrivent, mais aussi la Belgique, la Suède et les Pays-Bas. Et certains, bien sûr, restent aussi en France. Ces gens qui ont parcouru, et on peut parler aussi de ceux qui viennent de Guinée, de ceux qui viennent de Somalie, hein, qui ont parcouru de telles distances, qui ont pris de tels risques, qui ont dépensé autant d'argent, ces gens-là, évidemment, ils ne vont pas être arrêtés par des forces militaires qui sont mises à la frontière. Et donc, il y a ce décalage entre ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire des déplacements de population, qui sont des déplacements qui ne sont pas aussi énormes qu'on nous le dit, hein, là où nous travaillons, qui est le lieu de passage au nord de des Alpes, donc un des deux lieux de passage depuis l'Italie. Il y en a un au sud, à Menton, Vintimille, et l'autre, c'est à Briançon, Oulx, où nous travaillons. C'est 3 000, 3 000, 4 000 personnes par an. 3-4 000 personnes par an, c'est totalement absorbable. Et les gens qui passent de cette manière sont des gens qui peut-être ont été refoulés 2, 3, 4 fois par la police aux frontières, qui fait son travail. Mais ils continuent à passer parce qu'ils ont besoin de passer. Ils ne sont pas arrivés au terme de leur voyage. Donc, au fond, la question que l'on peut se poser collectivement, et encore une fois dans l'esprit d'une société qui vient, est-ce que nous devons continuer à penser qu'il est possible d'empêcher cette entrée sur notre territoire avec un coût extrêmement élevé, et bien sûr beaucoup plus en Méditerranée et maintenant dans la Manche que sur les frontières terrestres. Mais est-ce qu'on peut penser qu'on va empêcher cela, ou est-ce qu'il s'agit au contraire de répondre à une situation nouvelle qui n'est pas du tout celle d'une invasion, qui n'est pas du tout celle d'un remplacement, comme un grand remplacement, comme me le disait le chauffeur de taxi qui m'amenait ici, qui me posait la question. Mais quelque chose à quoi il faut faire face. Et si vous voulez, une des grandes questions pour nos gouvernements, c'est le cas pour les exilés, mais c'est le cas pour d'autres, est-ce qu'on peut empêcher le présent de se faire? Est-ce qu'on peut empêcher le futur de se développer? Ou est-ce qu'au contraire, il faut trouver des manières de répondre et de répondre de la façon la plus intelligente, mais aussi la plus humaine possible, hein? Et au fond, la question des exilés est un bon exemple de l'effort qu'il s'agira de faire sans se laisser entraîner dans les discours populistes qui, malheureusement, en France, mais dans nombreux pays d'Europe, essayent de nous entraîner vers une brutalité à l'égard de ces populations.
Alors évidemment, c'est un peu dur de passer après ce moment qui est en même temps très intéressant intellectuellement et puis émouvant. Vous avez dit le mot brutalité et ça nous amène à une autre thématique. Mais là, bon, je dois dire, il nous reste une dizaine de minutes, donc je ne dois pas tendre un piège à mon intervenant en lui posant la mauvaise question qui l'amènerait soit à dépasser, etc. Mais un des éléments sur lequel vous avez beaucoup travaillé dans votre carrière et qui rejaillit ici, c'est la question des violences policières, qui est traité dans le livre par Jérémy Gauthier, qui est un chercheur qui a travaillé sur ces questions-là. Cette thématique, vous le savez, elle est analysée par différents chercheurs en France et ailleurs, et on peut la regarder d'un point de vue, j'ai envie de dire, dans le débat public tel qu'il est posé, d'un point de vue polémique, parce qu'on est au cœur de pratiques difficiles, dans le sillage de la crise des Gilets jaunes, où un certain nombre de gens étaient, y compris ici, à Bordeaux, mutilés. Mais on peut la poser aussi telle que c'est fait dans le chapitre, c'est-à-dire d'abord avec ce leitmotiv, cette ligne rouge que vous avez de remettre les choses dans le long terme, de montrer que la police telle qu'elle naît dans nos sociétés contemporaines, elle est en permanence en tension entre une question de démocratisation de son mandat, au départ, sur le modèle de la police londonienne en 1830, etc., mais vraiment de l'idée de servir le peuple, d'un mandat public, de service public, et qu'en même temps, écrit Jérémy Gauthier, elle est tout le temps en tension, en tant qu'institution, dans sa propension à s'émanciper. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, encore une fois, dans notre société actuelle et dans celle qu'on peut produire, c'est le constat qui est fait par l'auteur, de dire qu'aujourd'hui, le renforcement des appareils policiers, la militarisation, les LBD, etc., 40, les grenades de désencerclement, disent quelque chose, non seulement de la police, et, dit l'auteur, des questions de racisme, non pas systématique, mais systémique, qui fait que dans la socialisation des policiers, le triage par race est une habitude, mais dit quelque chose de l'institution policière, mais aussi de nos démocraties. Et je pense que vous l'avez un peu amené, par cette question aussi des exilés, comment penser nos démocraties? Comment penser une institution policière qui soit adaptée au type de démocratie dont on a envie? Donc la question est posée dans le livre.
Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui concerne les violences policières, et le chapitre ne porte pas sur les violences policières, mais sur la police. Oui. Hein, mais évidemment, comment parler de la police aujourd'hui en éludant la question des violences policières? Et ces violences policières, pour avoir travaillé sur ce sujet, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a deux formes, enfin au moins deux formes de violence, et qui sont suffisamment différentes pour que les victimes de ces violences aient du mal à dialoguer les unes avec les autres. Il y a d'une part une violence physique brutale qui est occasionnelle. C'est des manifestations dans lesquelles des gens se font arracher une main, perdent un œil. Et c'est évidemment dramatique, et c'est ce que l'on voit, hein, parce que il y a eu on a rendu visible, et c'est très important de l'avoir fait, par exemple le film de David Dufresne, on a rendu visible cette violence-là. Mais il y a une autre violence qui, elle, est beaucoup plus invisible, qui est quotidienne, qui est moins tragique au sens des blessures physiques, mais qui est peut-être plus, plus destructrice au sens de la perception que les individus ont d'eux-mêmes, qui est une violence qui s'exerce dans les quartiers populaires, notamment à l'égard de jeunes, et qui sont souvent de jeunes appartenant à des minorités ethno-raciales. Donc, ce qu'on dit, on désigne parfois comme les jeunes des cités. Et je crois que c'est très important de distinguer les deux, bien que souvent les mêmes forces de police soient utilisées, c'est-à-dire que les brigades anticriminalité qui interviennent dans les banlieues ou dans les quartiers populaires sont appelées en renfort dans les manifestations. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a deux types de forces, mais il y a ce qui relève de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public et ce qui relève de la sécurité, de ce qu'on appelle la sécurité publique. Et je crois que ça donne des types de violences qui sont très différents, et on voit bien que ça a été le dialogue est difficile entre les deux. Et vous avez peut-être remarqué que au moment où les premières violences policières du mouvement contre le mouvement des Gilets jaunes sont apparues, il y a eu très peu de participation des quartiers populaires à ces mouvements, mais aussi il y a eu ce commentaire qu'on a souvent entendu, ils commencent à se rendre compte de ce dont nous sommes victimes au quotidien. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas la même chose dont ils sont victimes, mais je crois que c'est vraiment important de comprendre les deux formes de violence, de ne pas se laisser happer par la force des images, mais de comprendre qu'il y a les deux et que les deux doivent nous faire réfléchir, là encore, sur le type de société que nous voulons. Et on pourrait dire, bah bien sûr, la police, effectivement, elle a cette histoire, cette histoire longue, et cette tension entre une police qui serait plus proche des habitants, des citoyens, et une police qui est le modèle, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est le modèle britannique, et une police qui serait plus éloignée des citoyens, et même qui serait assez brutale, c'est le modèle états-unien. Mais au fond, il n'y a pas d'inéluctabilité de cette violence. Elle s'est renforcée ces dernières années, on l'a vu. Mais ça n'est pas inéluctable. Des spécialistes de la police ou des policiers d'autres pays, d'Allemagne, des Pays-Bas, par exemple, sans parler de la Grande-Bretagne, quand ils voient ce qui se passe en France, la manière de contrôler des manifestations, quand ils apprennent comment les jeunes sont traités dans les quartiers, sont tout à fait étonnés, parce que eux, ça n'est pas leur pratique. Et donc, je crois qu'il y a à la fois un élément structurel qui est celui, la police, elle doit bien utiliser la force dans certaines situations, hein, fameuse définition de l'État de Max Weber. Et en même temps, il y a des différences, et nous devons apprendre de ces différences. Aujourd'hui, il y a un refus de le faire, mais on peut espérer qu'à un moment donné, on apprenne à le faire. Et je dirais que ça implique aussi, de la part des gouvernants, la reconnaissance de ces violences. Vous vous souvenez certainement du ministre de l'Intérieur disant qu'il n'y avait pas de violence quand il y avait à l'époque 160 dossiers de violences policières qui étaient examinées par ses services. Mais disons publiquement qu'il n'y avait pas de violence. Donc il faut reconnaître pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir transformer les pratiques policières. Et j'ajoute que beaucoup de policiers sont eux-mêmes très gênés de voir leurs collègues se comporter comme ils se comportent. Donc la question, et effectivement vous avez très bien expliqué, la question c'est pas que la violence est systématique au sens où tous les policiers seraient violents, mais elle est systémique au sens où l'institution produit cette violence, ou en tout cas la favorise, notamment en ne la sanctionnant pas, notamment en ne la prévenant pas. Et c'est donc là un sujet vraiment très important, parce qu'il met en jeu, comme vous l'avez dit, la démocratie.
Alors, vous vous doutez bien qu'il nous reste à peu près 61 articles, je pense qu'on aurait tous été d'accord pour rester là. Mais on va plutôt applaudir Didier Fassin. Merci beaucoup.